Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'est une élection qui allait marquer un tournant, une révolution conservatrice pour une superpuissance en déclin. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, l'élection présidentielle américaine de 1980, le triomphe de Ronald Reagan.
I will not accept.
Je n'accepterai pas l'excuse voulant que le gouvernement fédéral soit devenu si gros qu'il échappe au contrôle d'un président de l'administration ou du Congrès. Nous allons mettre fin à l'idée que le contribuable américain est là pour financer le gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui est au service du peuple américain.
Discours de victoire de Ronald Reagan à la Convention nationale du Parti républicain, c'était à Détroit le 17 juillet 1980. Les États-Unis passaient alors un moment difficile. Récession, inflation, choc pétrolier. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la superpuissance américaine vacille. Humiliés en Iran, les Américains digèrent mal la crise des otages à Téhéran et l'échec de l'opération militaire destinée à les secourir. Ronald Reagan en tira profit face à Jimmy Carter, président de l'humiliation, l'ex-star d'Hollywood jette les bases de nouveaux nationalismes. Habile communicateur, il promet aux Américains de leur redonner leur fierté. « Let's make America great again », slogan efficace qui sera repris 35 ans plus tard par un certain Donald Trump.
Des mains d'électeurs qui se tendent vers lui et une armée de gardes du corps qui l'entourent comme s'il voulait le porter. Cela suffit à rappeler que Ronald Reagan est bien sur la route qui conduit à la Maison-Blanche. Et ses supporters affirment qu'après un marchand de cacahuètes, il n'y aurait rien de choquant que de voir un ancien acteur d'Hollywood affronter les feux de la politique mondiale. Mais au-delà de ces comparaisons qui veulent rappeler qu'après tout, la fonction présidentielle est ouverte à tous aux États-Unis, les plus rudes adversaires de Reagan conviennent aujourd'hui que son marathon électoral, en avion ou en autobus, débouche sur un fait précis. Une partie de l'Amérique fait confiance à l'ancien gouverneur de Californie qui s'est toujours présenté comme le porte-parole de cette Amérique profonde, c'est-à-dire conservatrice, qui croit que ses vertus sont les meilleures du monde. Une Amérique qui défend ses traditions, qui s'est interdit, tout comme Reagan lui-même, de critiquer Carter après l'échec de Téhéran. Car c'est dans l'échec qu'il faut soutenir son président, quel qu'il soit. Et c'est pourquoi Reagan fait fortune en 1980. Car de nombreux Américains sont prêts à voir en lui un meilleur président que Carter, un meilleur symbole qui serait plus proche de leurs préoccupations quotidiennes.
Portrait de Ronald Reagan au journal de 20 heures sur Antenne 2 en France. Alors pour nous parler de cette campagne électorale de 1980, mon invitée, Karine Prémont, elle est professeure à l'École de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Karine.
Bonjour Maxime.
Il y a de ces élections marquantes dans l'histoire. Celle-ci en est une. Pourquoi celle de Ronald Reagan est à ce point importante?
Parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Avec la fin de la présidence de Carter, c'est vraiment... la page qu'on tourne sur des années sombres, sur des situations compliquées, sur des relations difficiles entre les Américains et leurs institutions politiques. Et c'est le renouveau conservateur, surtout. Reagan aura cette capacité de mobiliser, de regrouper les forces conservatrices au pays. Et à partir de ce moment-là, cette révolution Reagan, ben, ça va donner un certain pouvoir, une très grande influence à ces mouvements conservateurs, à ces groupes conservateurs, notamment la droite religieuse, qui vont, à partir de ce moment-là, être une force omniprésente aux États-Unis. Et ça va aussi, cette période-là, marquer le début d'une nouvelle période de reconstruction pour le Parti démocrate qui va mettre presque 20 ans à se reconstruire.
Et ça, on le voit, la force des partis conservateurs, des groupes conservateurs encore aujourd'hui aux États-Unis. Mais parlons du contexte historique, vous l'avez évoqué, hein? 4 novembre 1980, il faut dire que ça ne va pas très bien aux États-Unis à la fin des années 70.
Non, ça ne va pas bien du tout parce que d'abord, on est dans une période de stagflation, de récession, il y a beaucoup de chômage, il y a une crise pétrolière également, une crise énergétique majeure à la fin des années 70. On a tous en tête les images de ces longues files d'attente aux stations-service Les Américains peinent à mettre de l'ordre dans leur voiture. Il y a des crises de politique étrangère. On en a entendu dans l'extrait précédent, la crise des otages en Iran, mais aussi l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Et on reproche à Jimmy Carter de manquer de fermeté sur la scène internationale, mais aussi d'être incapable de trouver des solutions aux problèmes des Américains qui sont touchés directement dans leur portefeuille, dans leur quotidien, dans leur façon de vivre. Et ça, ben, ça veut dire que la colère gronde, ça veut dire que à la veille de l'élection présidentielle, la situation n'est pas très joyeuse aux États-Unis.
Récession, vous l'avez dit, inflation galopante, hein, chômage, choc pétrolier, sans parler aussi, parce que ça, c'est important, la crise des otages en Iran. Alors, un résumé de tout ça, résumé de cette situation en 1979. 7 juillet 1979, le journaliste Pierre-Olivier, c'est dans les archives de l'INA.
Pendant ces semaines de juillet, les Américains font d'ailleurs la queue aux pompes à essence et certains doivent même abandonner leur projet de vacances. Ceux qui ont voyagé au Canada en savent d'ailleurs quelque chose. Les plaques américaines se font vraiment très rares. Puis on parle de la situation économique. 13-14 % d'augmentation des prix sur une base annuelle. 7 millions de chômeurs prévus pour l'an prochain. On parle de politique, notamment de cette guerre larvée qui oppose le président au Congrès depuis les tout premiers jours de son mandat, et qui risque aujourd'hui de remettre en cause son programme énergétique et même l'accord SALT II sur la limitation des armes stratégiques qu'il a pourtant signé à Vienne avec Léonid Brejnev. Mais au-delà de tout cela, on parle du président lui-même, de ses incertitudes, de son manque de leadership. Car c'est un premier niveau d'explication. Jimmy Carter n'a pas pu convaincre. Les sondages le démontrent de façon dramatique. À son arrivée à la Maison-Blanche, il a l'appui de plus de 70 % de ses concitoyens. Un an plus tard, il tombe en bas de 50 % et il ne franchira plus la barre.
Le journaliste Pierre-Olivier qui dira plus tard dans ce même reportage qu'à l'été 1979, la cote de popularité de Jimmy Carter est à son plus bas. Un Américain sur quatre l'appuie, ce qui est pire même, imaginez que Richard Nixon à la veille de sa démission en 1974. Ah, pourquoi? Comment on explique ce désamour envers Jimmy Carter?
Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est que Jimmy Carter, c'est quelqu'un qui veut réaliser beaucoup de choses en très peu de temps. Et donc, il va mettre en œuvre beaucoup de réformes de politique en même temps qui vont submerger le Congrès, qui va peiner à répondre à ces demandes-là, mais qui vont aussi bousculer profondément les Américains. Et le président également est un micro-gestionnaire. Donc, ça veut dire qu'il veut s'impliquer dans tout. Donc, il perd un peu de vue les problèmes concrets qui affectent les Américains. Alors, à partir de ce moment-là, il perd un peu le contrôle de son administration, il perd un peu le contrôle de sa gestion. Et troisièmement, ce qui explique pourquoi Jimmy Carter n'est pas très aimé, c'est qu'il leur dit la vérité aux Américains. Il leur dit, on a beaucoup de problèmes, j'ai pas toujours la solution pour ça. Alors, il va falloir se serrer la ceinture, il va falloir faire des sacrifices parce que ça va pas s'améliorer dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Alors, c'est pas tellement un discours qui plaît aux Américains. Et Jimmy Carter est incapable de sortir de ce négativisme-là, est incapable d'avoir un message d'espoir, un message qui va permettre aux Américains aussi, pour se serrer la ceinture, c'est bien beau de dire, il faut faire des sacrifices, encore faut-il leur donner une lueur d'espoir pour qu'ils le fassent. Et Carter est incapable de faire une telle chose.
Même son propre camp va le rejeter, hein, parce qu'il est contesté, ah oui. Bon, peu apprécié des Américains en général, mais même dans son propre camp, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Il y a un désamour entre Carter et la population américaine.
Et c'est ça qui est particulier avec l'élection de 1980. C'est assez rare qu'un président qui peut briguer un second mandat va être contesté à l'intérieur de son propre parti. Et ce sera le cas de Jimmy Carter. Il faut rappeler qu'à l'époque, en plus, les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès. Donc, vous avez un président démocrate, un sénat démocrate, une chambre des représentants démocrates. Et malgré ça, la situation est telle que les élus démocrates et la population vont le contester, vont contester le président. Et il y aura une lutte à l'intérieur de son parti pour le détrôner, si on veut, pour le remplacer. Et c'est Ted Kennedy qui va jouer ce rôle-là. Ted Kennedy va annoncer sa candidature en novembre 1979 et va donc obliger le président Carter à faire campagne, essayer de défendre son bilan. Carter, c'est un populiste du Sud. Kennedy vient de l'establishment du Nord. Alors, il y a beaucoup de différences idéologiques aussi entre ces deux hommes-là. Bon, Kennedy traîne un passé assez lourd. Bon, il a le Kennedy, ce qui est un avantage certain. Il a un programme très progressiste, contrairement peut-être à Carter, qui est un peu plus conservateur. Donc, ça aussi, ça l'aide. Mais il traîne un lourd bagage aussi parce que il faut se rappeler que Kennedy a été impliqué dans un accident mortel à Chappaquiddick quelques années auparavant. Il n'est pas, disons, tout à fait innocent dans cette affaire-là. Il y a eu une femme qui est morte dans cet accident. Il n'est pas très sûr de la raison pour laquelle il veut être président. Il a fait une entrevue désastreuse avec Roger Mudd de CBC en novembre, le CBS, pardon, en novembre, dans laquelle il est incapable de répondre à cette question-là. Pourquoi voulez-vous être président?
Why do you want to be president?
Well, I'm...
Ah oui.
Bref, Kennedy va... Hein? C'est une question de base, surtout pour un Kennedy. Il devrait être capable de répondre à cette question-là depuis sa naissance, mais il était capable de le faire. Donc, tout ça pour dire que Kennedy va être un adversaire hargneux contre de Carter, et ça va empêcher Carter peut-être de mener une campagne qui est organisée, qui est positive. En fait, Carter va mener une campagne extrêmement négative, que ce soit pendant les primaires ou ensuite contre Reagan.
Oui. Ben, c'est comme s'il avait mené la campagne avant la campagne, hein, parce que jusqu'à la toute fin, lors de la convention, on pense même, en tout cas dans les jours qui précèdent la convention, que c'est Kennedy qui va l'emporter.
En fait, Kennedy espère changer les règles du jeu. Mathématiquement, il n'a pas l'occasion de gagner parce qu'il sait qu'il n'a pas les délégués nécessaires pour l'emporter, mais il espère pouvoir changer les règles du jeu, c'est-à-dire de permettre aux délégués de voter pour la personne qu'il considère la plus apte à devenir président, non pas d'entériner le vote populaire de leur... Évidemment, ces règles-là ne seront pas changées et Kennedy va refuser de se rallier à Carter jusqu'en octobre. Donc, il va se rallier très tardivement. Il va mettre des bâtons dans les roues de Carter.
Ouais. Une campagne sale, hein? Assez hargneuse. Puis il faut dire aussi que le président Carter, il était perçu comme maladroit, hein? Un peu faible, quelqu'un qui manque de leadership. À preuve, en tout cas du moins dans les perceptions, là, ce fameux discours de juillet 1979, connu aux États-Unis sous le nom peu enviable de « discours du malaise ». On va en écouter un extrait.
Il est clair que les problèmes de notre nation sont plus profonds que les files d'attente à la pompe, plus profonds encore que l'inflation et la récession. Et je réalise qu'en tant que président, j'ai besoin de votre aide. Et c'est pourquoi j'ai tendu la main pour écouter les voix de l'Amérique. Et je veux partager avec vous ce que j'ai entendu. Premièrement, j'ai reçu beaucoup de conseils. À titre d'exemple, de la part d'un gouverneur du Sud, « Monsieur le Président, vous ne dirigez pas cette nation. Vous ne gérez que le gouvernement. »
Et puis, ça continue comme ça pendant plusieurs minutes avec une série de critiques qui lui sont adressées. Bon, c'est vrai qu'en termes de communication politique, hein, c'est peut-être pas une réussite, mais pourquoi on a tant ridiculisé ce discours de Jimmy Carter?
Parce que justement, ça démontrait toute l'étendue de son incapacité à trouver des solutions. Et à partir de ce moment-là, les Américains ont cessé de lui faire confiance, ont cessé de croire qu'il pouvait être un leader positif, qu'il pouvait sortir les Américains de ce marasme-là. Et c'est devenu une espèce de caricature, c'est devenu presque une blague que ce discours-là. Ses conseillers, notamment son vice-président Mondale, l'avait mis en garde contre ce discours-là. Ne le faites pas, ne dites pas ça. Il faut quelque chose de positif pour que les Américains vous suivent, vous appuient. Et Carter n'écoutait pas vraiment ses conseillers. Carter était un peu arrogant. C'est pas une caractéristique qu'on lui donne souvent, mais Carter était un peu arrogant et s'imaginait connaître ce que les Américains voulaient et était même prêt à leur imposer des choses en disant « Moi, je sais ce qui est bien pour eux. Peut-être que les autres ne le savent pas, mais le savent. »
Oui.
Et donc, tout ça, à un moment donné, a fait exploser un peu la marmite.
Bon, à l'opposé, dans le camp adverse, hein, chez les Républicains, ben là, on a trouvé son homme. Ce sera Ronald Reagan, même s'il faut le rappeler quand même, parce qu'il existe des divisions assez importantes. Là. Il y a eu des débats musclés entre Reagan et George Bush père, entre autres.
Ah oui, parce que George H. Bush, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience politique, un ancien directeur de la CIA, un ancien représentant des États-Unis en Chine, un ancien ambassadeur de l'ONU, durant l'administration Reagan. Donc, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus libéral aussi que Ronald Reagan. Alors, il y avait aussi d'autres candidats qui s'étaient présentés à l'investiture républicaine, des sénateurs, dont Bob Dole, qui va se représenter plus tard aussi à la présidence, et aussi l'ancien secrétaire au Trésor de Nixon, John Conley, qui était au départ perçu comme étant peut-être l'adversaire le plus de Reagan. Et au départ, dans les primaires républicaines, c'est Bush qui remporte quelques concours. Alors là, on commence à être un peu inquiet, mais ce momentum-là va rapidement se dissiper, si on veut. Et les débats vont donner beaucoup de visibilité à Reagan. Reagan, il faut le dire, c'est un ancien acteur de Hollywood. C'est quelqu'un qui a été aussi gouverneur de la Californie. Donc, il a des capacités de communication. C'est un grand communicateur,
oui,
Reagan.
Oui, oui, tout à fait.
Alors que Bush, lui, Bush est beaucoup plus dans la substance, mais télévisuellement, là, disons que ça avantage pas mal plus Reagan que ces débats-là entre les deux hommes.
Oui. Et d'ailleurs, Reagan va remporter la convention républicaine de façon assez convaincante, avec plus de 97 % des votes. Donc, on se retrouve en 1980 avec deux candidats, Jimmy Carter et Ronald Reagan, deux hommes qui sont aux antipodes. On va écouter là-dessus Patrick Brogan. Il était journaliste basé à Washington. C'est un Britannique. C'était à notre radio le 1er novembre 1980.
On a vu que M. Reagan, c'est plutôt pour la politique étrangère dure et, pour ainsi dire, impérialiste, et que M. Carter est plutôt conciliant envers le tiers-monde, envers l'Union soviétique. M. Reagan prône, et avec acharnement, l'indépendance individuelle vis-à-vis du gouvernement, et M. Carter dit qu'il faut que le gouvernement s'occupe des pauvres, des femmes, des malades, des vieux. Tandis que M. Reagan dit qu'il faut que ces gens-là se débrouillent tout seuls. Et ce que représente M. Reagan, c'est la nostalgie pour les années 40 et 50, lorsque le président des États-Unis, pour ainsi dire, dirigeait les affaires du monde entier.
Nostalgique, sans doute, mais son message, il est simple et ça marche. Hein? Il suscite l'espoir, Ronald Reagan. C'est peut-être ça aussi sa force. Hein? Comment on explique le succès qu'il va obtenir en campagne électorale par la suite?
C'est justement ça, c'est son message. C'est-à-dire que, pas tant son message que son attitude, en fait. Ronald Reagan est quelqu'un qui a un message très positif, très déterminé aussi. C'est quelqu'un qui dit aux Américains, ça va mieux aller, j'ai des solutions pour vous, on est capable du meilleur, on est un grand peuple, nous avons de grandes réalisations à notre actif. À un moment donné, il ne faut pas se diviser, il faut tous participer à cet effort. Et il y aura des lendemains qui chantent pour les États-Unis. C'est un peu le message qu'il a et c'est un contraste extrêmement frappant avec Carter qui dit « ça va mal et ça va aller encore plus mal ». Alors, on est vraiment là, dans ce jeu de miroir-là et à partir de ce moment-là, ben, Reagan est intéressant pour les gens qui ont besoin de cet espoir-là pour sortir des différentes crises qui les affligent.
Et d'autant plus, on l'a dit, que son adversaire, il est, lui, assez faible, hein, Jimmy Carter.
Ben, c'est-à-dire qu'il donne cette impression parce que justement, il est dissipé, il est impliqué dans un paquet de dossiers, il va à peine faire campagne. Il va falloir que ses conseillers le forcent presque à faire campagne parce qu'il le dit, j'ai des choses plus importantes à faire que faire campagne. Mais ses conseillers disent, c'est parce que vous allez perdre, là, c'est ça qui va se passer. Mais il y avait des crises en même temps qu'il fallait régler. Et quand on fait campagne, on n'a pas le temps de prendre des décisions importantes. Mais parce que Carter est impliqué personnellement dans tous les dossiers, il ne voyait pas l'utilité de faire campagne parce qu'il voulait essayer de régler ces problèmes-là. Enfin, bref, cette faiblesse-là vient de son implication multiple, si on veut, et aussi de son incapacité à trouver des solutions à court terme pour donner espoir aux Américains.
Est-ce qu'on prévoyait une lutte serrée à ce moment-là?
Ben, pas vraiment. En fait, il est devenu assez évident à la fin de l'été que Carter devait perdre, mais comme Carter dit dans ses mémoires, il s'attendait à perdre, mais peut-être pas de façon aussi écrasante que ça. Reagan a vraiment une des victoires les plus éclatantes de l'histoire. Il va remporter... En fait, Carter va remporter seulement 6 États plus Washington, D.C., ce qui est très peu. Reagan va gagner 8 millions de votes de plus que Carter. C'est vraiment une victoire là, incontestée et incontestable de Reagan qui va avoir réussi à rallier l'ensemble des conservateurs dont on parlait au début de l'émission, notamment la droite religieuse, et aussi des démocrates déçus, les Reagan's Democrats, qui vont le suivre aussi. Donc, c'est vraiment une victoire tout à fait éclatante pour Reagan en 80.
Oui. Alors, Reagan, élu haut la main 4 novembre 1980, on va écouter un extrait de son discours ce soir-là.
Je n'ai pas peur de ce qui nous attend et je ne pense pas que les Américains ont peur de l'avenir. Ensemble, nous ferons ce qu'il faut. Nous remettrons les Américains au travail. Nous puiserons dans ce grand esprit américain qui a permis de développer un vaste territoire d'un océan à l'autre, de survivre à deux guerres, de survivre à une grande dépression. Et nous survivrons aux problèmes auxquels nous faisons face maintenant.
Donc, un résumé de ce que vous disiez, hein, Karine, c'est intéressant. En quelques secondes, hein, ça résume tout. Là. Les États-Unis, on a fait face à d'autres défis. On a surmonté les épreuves. On n'a pas peur. On va le faire ensemble. C'est un vieux président, Ronald Reagan, hein, 69 ans. Mais en même temps, c'est un vieux qui incarne l'avenir. C'est peut-être ça aussi le paradoxe.
Oui, c'est vrai. C'est une belle façon de présenter ça parce qu'il dit justement, on va essayer de faire ça ensemble. C'est difficile, mais on a déjà connu pire. On va faire ça ensemble. On va réussir ensemble. Évidemment, sa présidence, ce sera autre chose. C'est-à-dire que ce ne seront pas nécessairement 8 années très positives. Il y aura beaucoup de problèmes durant son administration aussi. La condition de vie des Américains, en tout cas, ce ne sont pas tous les Américains qui vont voir des solutions à leurs problèmes, mais il a au moins ce message, il a au moins cette main tendue vers les Américains en disant « Je vais travailler pour vous, avec vous, puis ensemble, on va réussir. » Et c'est là, comme je le disais, qu'est le contraste avec Carter, qui disait « Ben, vous êtes tout seul parce que je peux pas vous aider. » Donc on comprend cette victoire-là de Reagan, et les années 80, c'est une décennie qui sera pleine d'espoir pour toute une génération, mais qui, bon, comme bien d'autres moments dans l'histoire, là, sera finalement un peu moins chantante que ce qu'on avait prévu.
Oui, tout à fait. Mais justement, vous l'avez dit, il va faire 2 mandats. On se souvient, quand à son 2e mandat, il y a cette fameuse publicité qui est devenue célèbre, où il dit, grosso modo, le soleil brille à nouveau sur les oui. États-Unis. On va retirer quoi au final des années Reagan?
Ah ben on va retenir un message de fermeté à l'égard de l'URSS qui va mener éventuellement à la fin de la guerre froide. Donc Reagan ne sera pas nécessairement celui qui a mis un terme à la guerre froide, mais c'est celui en tout cas qui va avoir ouvert des portes, qui va avoir tendu sa main en tout cas à Gorbatchev. Donc la fin de la guerre froide et l'apaisement en tout cas des tensions avec l'URSS, c'est déjà quand même quelque chose de positif, mais ça se fera pas gratuitement, c'est-à-dire que le prix à payer sera une détérioration, comme je le disais, de certaines conditions de vie à l'intérieur des États-Unis. Le racisme, notamment la pauvreté, vont connaître des croissances assez fulgurantes dans les années 80. Reagan est aussi responsable de la désinstitutionnalisation massive des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale, par exemple. En tout cas, il y a un paquet de politiques sociales, en fait, qui vont être démantelées par l'administration Reagan, qui vont mener aux récessions et aux problèmes sociaux que les années 90 devront résoudre par la suite.
Oui. Vous l'avez dit, cette récession très, très dure, 81-82, les taux d'inflation, puis les taux hypothécaires, oui. Tout le monde s'en souvient, dans les années, au début des années 80, des taux hypothécaires qui frôlaient les 18-19 % taux de chômage également qui était à la hausse. Alors, tout ça, c'est le début de mandat assez difficile de Ronald Reagan. Mais oui, 8 années, disons, marquantes et une révolution conservatrice pour les États-Unis. Mon invité, je le rappelle, Karine Prémont, elle est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, Karine.
Merci.
Merci. À une prochaine. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la recherche Sabrina Desnoyers, Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, Sophie Hélène Gibson. Site Internet, c'est Péril Bral. Mise en onde, Martin Boulanger. Réalisation, Caroline Reed, Trianta Filos. Si vous avez envie d'écouter, de nous écouter en rattrapage, il y a toujours bien sûr notre site web ou bien en balado, c'est exclusif sur l'application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous écrire en tout temps. N'hésitez pas à le faire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Commentaires, suggestions, idées. Histoire à commercial radio-canada.ca, histoire au singulier, ou sinon directement sur notre page Facebook. Ici Maxime Coutier, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. À une prochaine. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.